Non seulement la Normandie a-t-elle produit l'un des ensembles d'architecture médiévale les plus remarquables, elle a aussi joué un rôle clé dans l'historiographie de ce style d'architecture. Au XIXe siècle, l'érudit normand Charles de Gerville a inventé le terme « roman » et son collègue Arcis de Caumont écrit une histoire de l'architecture normande qui est l'une des premières à pouvoir se prétendre véritablement de caractère moderne en sens académique. Cette tradition d'érudition de la plus haute qualité persiste jusqu'à nos jours, en particulier depuis le colloque de Cérisy de 1994, qui demeura la valeur de référence. Pour les besoins de l'étude que je présente aujourd'hui, j'ai organisé le contenu en fonction d'unités politiques, en commençant par la Normandie, puis passant aux les pays du Nord et Ouest, et après à Méditerranée. La Normandie. Les vainqueurs scandinaves de ce qui deviendrait en l'année 911, la Normandie se sont empressés de devenir française par presque tous les moyens, par le style de leur architecture certainement, aussi bien que par leur langue et leur religion. N'ayant pas eux-mêmes une tradition de construction en maçonnerie, et je parle dans cette présentation seulement de l'architecture en maçonnerie, ils ont adopté les modèles de France carolingienne, puis capétienne. L'évidence qui survit du Xe siècle est extrêmement rare et surtout documentaire, mais l'étendue de leur ambition est clairement illustrée par la révision totale qu'ils ont entreprise, probablement au cours des années 930, du plan romain quadrillé de Rouen. Au début du XIe siècle, pour lequel il subsiste plus d'évidence, leur ingéniosité aussi devient apparente, particulièrement dans le donjon d'Ivry-la-Bataille, où, probablement pour la première fois, la salle, la chambre et la chapelle ont été réunies pour créer un nouveau type de structure. Le processus d'invention est illustré par la progression même de la structure, car les dessinateurs ont accepté tout d'abord une forme irrégulière à gauche créée par la juxtaposition des trois volumes, pour ensuite, en ajoutant un module supplémentaire, transformer la structure en un seul bloc rectangulaire à droite. Il est interrompu quand même par l'abside en saillie, qui devait devenir la marque de fabrique des plus célèbres donjons normands. Les églises du XIe siècle, de le commencement de l'XIe siècle, empruntent des éléments carolingiens de source du Xe siècle, tels que la deuxième église de Cluny et la cathédrale de Clermont-Ferrand. Cluny est distingué par les absides en échelon, suivies à Bernay entre 1008 et environ 1050, et Clermont-Ferrand est doté d'une déambulatoire avec des chapelles rayonnantes, que l'on retrouve à la cathédrale de Rouen, consacrée en 1037. Le massif occidental est également d'origine carolingienne, comme celui de Saint-Pierre à Jumièges, daté maintenant par Jacques Le Mao et James Morgenstern d'environ de 800, deux siècles avant la date précédemment attribuée. Et je crois convaincant, les arguments sont convaincants. Et survivant à Jumièges également, à l'abbaye de Notre-Dame, daté du XIe siècle. Nous n'avons pas besoin de chercher ces caractéristiques dans l'Empire germanique, l'Empire ottonien, car la base carolingienne commune suffit. L'aspect le plus en avant des églises de la Normandie est la coursière, un passage aménagé dans l'épaisseur du mur, inspiré par des éléments purement utilitaires de l'an 1000 environ, tels que ceux de Saint-Bénigne à Dijon, ou peut-être d'un donjon. Cette coursière a été utilisée pour la première fois en Normandie à Bernay, dans le but uniquement pratique de fournir un accès à la tour de croisée, sans construire un escalier en spirale dans la partie inférieure d'un pilier de croisée. À Jumièges, une coursière est installée dans chacune des parties latérales, s'éloignant plus du purement platique, et à l'époque de Saint-Étienne de Caen, de 1066 jusqu'aux années de 1080, la coursière faisait très probablement le tour complet du bâtiment au niveau de l'étage supérieur. À un certain moment de la première moitié du XIe siècle, l'architecture de la Normandie est devenue suffisamment distincte de l'architecture du reste de la France pour justifier d'être clairement identifiée comme normande, Angleterre anglo-saxonne. Si nous écartons les revendications possibles de la Bretagne, le premier exemple du style normand de construction érigée par un commanditaire non normand est l'église de l'abbaye de Westminster, dont les travaux ont été entrepris vers 1050. Sous le roi anglo-saxon normanophile Édouard le Confesseur, tous les éléments de cette structure qui nous sont connus étaient de style normand, sauf un, la longueur, car elle dépassait de plus de 8 mètres la cathédrale de Rouen, l'église la plus longue de la Normandie à l'époque, et de plus de 20 mètres, la deuxième plus longue. Il semble raisonnable d'attribuer cette caractéristique au fait que le commanditaire était un roi. L'Angleterre est pays de Galles normande. L'histoire de l'architecture de l'Angleterre normande remonte peut-être à la bataille d'Hastings, même, car la tapisserie de Bayeux illustre la construction d'un château fort en préparation de la bataille. Après avoir vaincu les Anglais, les Normands, avec les monuments grands, ont tout simplement imposé leur style d'architecture à tout le pays d'Angleterre, construisant et reconstruisant à une telle allure que, dans les décennies qui ont suivi 1066, l'Angleterre était transformée en un vaste chantier. Cette affirmation est confirmée par le fait qu'à une seule exception près, à Sherborne, au cours de cette période, chaque cathédrale et chaque grande église monacale anglo-saxonne a été remplacée. De nombreux châteaux à motte ont été construits, suite aux premières érigées, peut-être à Hastings, et parmi les églises, Saint-Étienne de Caen a servi de modèle pour la cathédrale de Lanfranc à Canterbury. À partir de ce moment-là, le centre vital de l'innovation en architecture normande s'est déplacé vers l'Angleterre. Nous y trouvons des monuments spectaculaires, tels que les églises de Ely, d'Anautur à Nuy. Durham rivalisant avec l'Essai pour l'honneur d'être la première dotée des voûtes à croisées d'ogives au-dessus des volumes principaux, et Romsey, célèbre pour son ordre colossal, fondé peut-être sur la description de Vitruve, de sa basilique de Fanum. Une des caractéristiques qui distingue les églises de celles de Normandie est encore une fois la longueur. Après le travail de Lanfranc à Canterbury vers 1070, chacune des principales églises construites pendant cette décennie était plus longue que la précédente, y compris Saint-Augustin à Canterbury, la cathédrale de Lincoln, l'abbaye de Saint-Aubin et 1079, la cathédrale de Winchester. Winchester, étroitement associée à Guillaume le Conquérant, n'est-ce pas seulement l'église la plus longue de ce groupe, mais aussi la première à dépasser la longueur de l'église reconnue auparavant comme étant la plus longue en Occident depuis l'Antiquité, notamment la cathédrale de Spire, ainsi que celle de l'église Saint-Pierre à Rome du IVe siècle, construite par Constantin. Non la grandeur, mais la longueur, oui. À mon avis, l'échelle de Winchester reflète la nature impériale du standing de Guillaume dans ses yeux et propres lieux. C'était en tout cas l'avis de l'un de ses contemporains, l'évêque de Langres, qui disait de Guillaume en 1075 « Comes erat, nunc rex, caesar erit », c'est-à-dire, d'après le contexte souverain de l'Empire germanique. Le pays de Galles a été conquis à la suite de l'Angleterre, quoique plus difficilement, comme en témoignage le nombre de châteaux construits aussi bien selon le modèle des châteaux à motte que selon le modèle de donjons en maçonnerie. Parmi les églises, les plus marquantes figurent le site religieux le plus important du pays de Galles, la cathédrale de Saint-David, qui date de la fin du XIIe siècle. Irlande, l'Écosse et Norvège. Ce qui s'est passé en Irlande en termes d'architecture reflète en grande partie ce qui s'était passé au pays de Galles, c'est-à-dire que les églises anciennes de style et de l'église celte ont presque toutes été remplacées par des églises de style normande. Sur le plan sociopolitique, cependant, l'expérience de l'Irlande ne pouvait guère être plus différente. Les Normands n'ont pas envahi l'Irlande jusqu'à 1170 environ, presque à la fin du style normand. Mais, à partir de la fin du XIe siècle, les Irlandais ont adopté progressivement de plus en plus des coutumes et des formes de l'Église normande, en particulier le système diocésain. Cela explique le contraste entre les édifices construits avant 1100 environ, tel que l'exemple que se trouve dans l'île de Magdara, et les monuments du XIIe siècle, tels que la chapelle de Cormac à Cashel. Encore plus souvent qu'au pays de Galles, les architectes continuaient d'utiliser des éléments de la tradition plus ancienne, tels que pignons pontus, les hantes, les jambages inclinés et les tours rondes. Et sans doute parce que les commanditaires n'étaient pas les Normands. Ils sont Irlandais. L'Écosse, comme l'Irlande, n'a pas été envahie par les Normands et elle aussi a adapté la culture normande. Parmi les nouveaux édifices normands, l'abbaye de Dunfermline en représente un bon exemple car elle suit de près le style de Durham. À un moment, il y a là des autres monuments irlandais avec un Clonmacnoise avec le tour ronde. La culture de l'architecture normande est s'étendue jusqu'en Norvège, où l'on trouve la cathédrale de Kirkwall à Orkney, qui était à l'époque un comté scandinave. Les principaux éléments de Kirkwall sont encore empruntés de Durham, sont très proches. Lorsque en Angleterre et le pays de Galles, l'architecture de l'époque normande était essentiellement normande. En Italie du Sud et en Sicile, ce sont les Normands qui ont adopté les méthodes et les formes de la construction de cette région. Par exemple, celui-ci se voit clairement dans le style arabe des palais du XIIe siècle de la Kouba et de la Ziza à Palerme. Et vous avez aussi les églises byzantines, les églises byzantines et italiennes, comme Saint-Nicolas Bari, et un peu des églises de source normande, comme les églises dotées des ambulatoires à Aversa, à Cerenza et Venosa, qui datent d'environ de 1100. Dans la principauté d'Antioche, en Terre Sainte, ce processus a été poursuivi encore plus loin. Bien que la maison normande des Hautes-Villes ait régné sur ce territoire pendant la plus grande partie du XIIe siècle, il y voit peu de caractéristiques normandes, même sur des châteaux, comme celui de Sens. Résumé, les édifices et les commanditaires. Je veux conclure avec une examination plus détaillée d'une caractéristique spéciale normande. Mais première, les édifices qui nous assurent en Normande peuvent donc être regroupés en trois catégories. 1. Première, ceux de style normande, les bâtiments de style normande construits pour les commanditaires normandes. En Normandie, obviously, en Angleterre, est au pays de Galles, ainsi que quelques exemples en Italie du Sud et en Sicile. Deuxième catégorie. Ceux, les bâtiments de style normand, construits pour des commanditaires qui n'étaient pas normands, tels que Westminster, dont le commanditaire est anglo-saxon, et les édifices pertinents en Irlande, en Écosse et en Orkney. Et troisième catégorie, ceux qui ne sont pas de style normand, mais qui ont été construits par des Normands, en Italie du Sud, en Sicile et en Terre Sainte. Et, il faut l'admettre, les premiers exemples d'architecture des Normands aussi, ceux qui datent du Xe siècle en Normandie même. Après cet aperçu très condensé et rempli de généralisations à couper le souffle, j'aimerais conclure par l'étude d'une caractéristique unique qui s'est avérée d'une importance durable. C'est en 1939 que Jean Bonny, avec son intelligence brillante, a analysé pour la première fois l'innovation du surplomb à Saint-Étienne-de-Caen. La face externe du mur de la nef, la face avec la galerie, au-dessus du niveau de la coursière, est épaisée pour permettre la construction d'un coursière dans l'étage supérieur, tout en réduisant la largeur des piliers de l'arcade principale, qui sont plus étroits que ce ne serait possible autrement. Je tiens à examiner de plus près cet élément, car au fil des années, son importance s'est trouvée diminuée à cause de deux sources de confusion. La première source de confusion a été créée par le fait que Boni, exceptionnellement pour lui, a utilisé des termes ambigus. En fait, il a décrit la configuration de Saint-Étienne comme le mur épais muni de passages supérieurs, ou même tout simplement le mur épais. Cependant, il existe de nombreux exemples de murs épais munis de passages qui ne sont pas en surplombe. Par conséquent, Dethard von Winterfeld, parlant des travaux de Henri IV à Speyer au cours des années 1080, décrit les murs principaux munis de passages dans l'avant-toit comme utilisant la même technique du mur épais qu'en Normandie. Il reprend précisément le langage de Boni en ce qui concerne l'épaisseur du mur et l'existence d'une coursière, mais cette terminologie obscurcit le fait qu'à Speyer, il n'y a pas de surplombe. L'épaisseur supplémentaire est créée en ajoutant un rouleau à l'arche aux côtés de la nef, depuis la base des piliers jusqu'au sommet. À Saint-Étienne, comme l'épaisseur supplémentaire est soutenue par la galerie, sur la face externe du mur, on a pu construire des piliers bien plus étroits que le mur qu'il soutient. Deuxième cause, à Cluny. Deuxième cause de cette confusion a créé par Kenneth Conant, qui a inclus un surplombe dans la reconstruction de la nef de l'église de Cluny, mise en chantier en 1088. Il est complètement unique, surplombe sans coursière, et seulement, je veux dire, ici, parallèlement, il y a tous les exemples des églises passé directement sur le dessin de Cluny n'a pas surplomb et basé sur une description de 1800. Pour conclure, le mur épais muni d'une coursière et d'une surplomb dissimulée avec Saint-Étienne ne se trouve ni dans l'architecture roman de la Rhénanie ni dans celle de la Bourgogne. Il s'agit d'une innovation normande et d'une innovation qui s'est avérée exceptionnellement exploitable. La preuve en est qu'elle a été adoptée à la cathédrale de Laon vers 1160. Elle permet une réduction spectaculaire du diamètre des colonnes de l'arcade, en contraste avec les colonnes bien plus épaissées de Notre-Dame de Paris, où il n'y a pas de surplomb. Et vous avez surplomb à les cathédrales de Chartres, Amiens, Reims, etc. Par cette contribution, comme par beaucoup d'autres, la Normandie a participé de façon essentielle au début du développement de l'architecture gothique dans le nord de la France. Merci.